Il est 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Et ce glas qui a donc résonné dans toutes les églises de France cet après-midi à 15h après le drame de Nice. La France sous le choc de cette nouvelle attaque terroriste qui a fait 3 morts ce matin à la basilique Notre-Dame.
On sera sur place dès le début de ce journal. La France qui renforce donc son niveau d'alerte et son dispositif de surveillance, notamment autour des lieux de culte. 7000 militaires en tout seront déployés sur tout le territoire.
On tentera d'en savoir plus également sur le profil du terroriste. A priori, un migrant de 21 ans qui venait d'Italie.
Ce soir à minuit, notre pays bascule de nouveau en conflit. C'est l'autre information de la soirée. Le Premier ministre doit en préciser ce soir les modalités.
Et on attend notamment de savoir comment s'organisera la vie dans les écoles, les collèges et les lycées.
Dernières heures en quelque sorte de liberté donc, et vous êtes nombreux à en avoir profité pour aller faire des courses aujourd'hui.
Rués dans les magasins, certains ont même déjà acheté les cadeaux de Noël.
Le sport amateur va se mettre lui aussi à l'arrêt, on en parlera, mais les pros, eux, vont pouvoir continuer.
Et notamment les rugbymen du 15 de France qui pourraient nous offrir une belle parenthèse dans cette actualité. Les Bleus jouent samedi contre l'Irlande et s'il remportait le tournoi des 6 nations. Ça fait 10 ans que ça n'est pas arrivé. La Bourse de Paris a terminé ce soir proche de l'équilibre, moins 0,03% à 4569 points.
Et puis une éclaircie dans ce monde obscur avec Anissa qui nous a rejoint, c'est la météo bien sûr. Du soleil, un petit peu de soleil demain au programme.
Oui, bonsoir Julien, oui effectivement, les éclaircies seront beaucoup plus généreuses et au fil des heures, le soleil va s'imposer sur une grande partie du pays. Demain, les températures seront printanières, mais attention aux brouillards matinaux, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La France de nouveau ce soir en état de sidération après cet attentat ce matin en plein cœur de la ville de Nice.
Nice où l'on vous retrouve Frédéric Michel. Le terrorisme a donc encore frappé 4 ans après le drame de la promenade des Anglais et cette fois, il a frappé dans un lieu sacré, une église.
Effectivement, la basilique Notre-Dame de Nice, située au cœur de la ville, à 2 pas de la gare. C'est d'ailleurs en gare centrale, après visionnage de nombreuses images vidéo, que le terroriste présumé est vu pour la première fois. Il est 7h11 du matin. Une heure plus tard, l'homme, un Tunisien, né en 1999, sort de la gare et prend la direction de l'église. Il y rentre à 8h29 et commence à faire ses premières victimes. Daniel, le serveur d'une brasserie voisine.
On a vu une femme partir en courant. Partez, il y a un attentat, il y a des meurtres. Donc du coup, tout le monde est parti. Et ensuite, quelques minutes après, on a entendu les coups de feu.
À 8h58, l'assaillant est neutralisé par des policiers municipaux qui font usage de leurs armes. L'individu est touché par plusieurs balles. Et alors que des secouristes prodiguent les premiers soins, même le sol, l'homme revendique son action en criant de nombreuses fois « Allahu Akbar ». Dans une ville déjà meurtrie par l'attentat du 14 juillet 2016, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des petits groupes se forment, on parle, on débat avec parfois des idées radicales. On a trop attendu, il faut être sans pitié avec ces individus et leurs familles, explique un badaud. Un peu plus loin, une femme en colère dit craindre l'amalgame avec l'ensemble des musulmans de France.
Moi je n'ai pas peur, je suis musulmane, je donne mon nom. Je montre mon visage, je n'ai pas peur de ces gens-là. Des gens qui se considèrent comme des musulmans. C'est pas des musulmans. C'est pas possible qu'on tue. Pourquoi on coupe la tête? Alors les musulmans.
On est là.
Alors nous allons dormir à Notre-Dame aujourd'hui pour dire que non, ça suffit.
Alors ce soir, la basilique Notre-Dame n'est toujours pas accessible. Il y a encore un large périmètre de sécurité. Et Nice, qui comme partout en France, débute son confinement à 21h, se vide doucement dans une atmosphère très lourde.
Merci Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice. Un attentat qui a donc touché la communauté catholique en plein cœur dans un moment particulier juste avant les fêtes de la Toussaint.
Des catholiques qui se sont spontanément réunis à l'annonce de ce drame. Des messes ont été célébrées en hommage des victimes de Nice, comme en l'église Saint-Sulpice à Paris, où s'est rendue Caroline Baudry.
À 15h, les cloches ont résonné dans cette grande église où certains sont venus allumer des cierges. Une centaine de personnes s'est installée pour écouter Michel Aupetit, l'archevêque de Paris, et cette messe en l'honneur des victimes de l'attaque ce matin.
Oui, l'important, c'est de rester debout et de ne pas être terrorisé par ceux qui veulent nous terroriser. Car nous savons que le dernier mot sera toujours à l'amour.
L'assemblée est très émue, certains sanglotent ou sont encore sous le choc, comme Guillaume et Judicaël. Ils ont tenu à venir ici rendre hommage aux victimes.
C'est un lieu de paix, de prière, de se dire qu'on peut se faire attaquer comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est très fort et qui est très dur.
Je suis catholique, pas forcément pratiquante, mais
Aujourd'hui, je me sens un peu plus catholique que d'habitude, finalement. Un professeur, des personnes qui bénévolement sont dans une église pour en prendre soin, ça commence à suffire. On s'habitue pas.
Des catholiques qui disent revivre aujourd'hui le drame de Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016, où le père Hamel avait été tué dans son église.
Le reportage de Caroline Baudry en l'église Saint-Sulpice à Paris cet après-midi. Emmanuel Macron s'est rendu à Nice en début d'après-midi. Le chef de l'État a fait part bien sûr de son émotion face à ce qu'il a qualifié d'attaque terroriste islamiste. En France, il n'y a qu'une communauté, a-t-il dit, c'est la communauté nationale.
Le président qui a également annoncé des renforts supplémentaires dans cette lutte contre le terrorisme.
J'ai décidé que nos militaires seront dans les prochaines heures davantage mobilisés et nous passerons la mobilisation dans le cadre de l'opération Sentinelle de 3000 à 7000 militaires sur notre sol. Nous nous mettrons ainsi en situation de protéger tous les lieux de culte, en particulier bien évidemment les églises, pour que la Toussaint puisse se dérouler dans les conditions qui sont dues.
Emmanuel Macron cet après-midi à Nice. Alors, un nouvel attentat après celui qui a visé Samuel Paty, c'est ce que les autorités redoutaient.
Oui, Guillaume Bier, vous nous avez rejoint. Cette menace terroriste était d'ailleurs ces derniers jours prise très au sérieux.
Oui, le type d'attaque perpétrée ce matin, c'est exactement ce que redoutaient les autorités, puisque dimanche dernier, une agence de presse non officielle mais proche d'Al-Qaïda a diffusé un message très explicite qui appelait à commettre ce genre d'attaque meurtrière. Dans les heures qui ont suivi toujours dimanche, ce renforcement de la menace a été immédiatement pris en compte par le ministre de l'Intérieur, répercuté à tous les préfets dans une note détaillée, 3 pages dont nous avons pris connaissance, et qui fait état noir sur blanc du risque d'attaque à l'arme blanche, avec de nombreuses cibles symboliques potentielles, y compris les lieux de culte. Alors depuis cet attentat, la première mesure, c'est effectivement le plan Vigipirate qui est activé au niveau urgence attentat, c'est le niveau maximal du plan. Renforcement des patrouilles, des surveillances autour des lieux de culte et des cimetières, avec le concours des militaires, le chef de l'État vient d'en parler. La sécurité sera aussi renforcée autour des établissements scolaires lundi pour la rentrée, sachant que c'était déjà envisagé avant même cet attentat.
Guillaume, que sait-on à ce stade du profil du terroriste ?
Alors, d'après les derniers éléments, c'est un homme de 21 ans, un migrant dont on ne connaît pas encore avec certitude la nationalité, mais il serait bien arrivé en Europe par l'île de Lampedusa en Italie il y a un mois environ. Il avait été mis en quarantaine par les autorités italiennes qui lui ont demandé ensuite de quitter le territoire italien, mais il a été laissé libre. Il est arrivé en France au début de ce mois d'octobre, sans papier, sans titre de séjour.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1, merci.
Un attentat unanimement condamné évidemment par la classe politique, condamnation également du président du Conseil français du culte musulman.
Mohamed Moussaoui qui appelle les musulmans en solidarité avec les chrétiens à annuler les festivités de la naissance du prophète de l'islam qui était prévue à partir de demain.
Oui, notre invité, on en parlera largement de cet attentat terroriste avec lui, le chef de file des sénateurs LR. Il s'agit de Bruno Retailleau, il sera avec nous à 18h20.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite de votre journal 18h09 avec Isabelle Millet toujours. Et ce soir à minuit donc, la France repart pour un second tour.
Second confinement confirmé hier soir par Emmanuel Macron et dont les modalités doivent être précisées d'ici un peu moins d'une demi-heure maintenant par le Premier ministre. Alors on en connaît déjà les grandes lignes, mais il reste encore pas mal de questions.
Oui, notamment dans le domaine de l'éducation, Virginie Salmen. S'il est acté que les écoles, les collèges, les lycées resteront ouverts, on attend encore de savoir comment tout ça va concrètement s'organiser.
Oui, on sait déjà que les élèves à partir du CP, donc 5-6 ans, devront porter le masque toute la journée à l'école. Le Premier ministre Jean Castex l'a confirmé ce matin. Le nettoyage des locaux et l'aération des salles seront accentués, a promis le ministre de l'Éducation nationale. Ensuite, pour le collège et surtout pour le lycée qui reste ouvert, le non-brassage des élèves va être un élément clé, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour éviter à des centaines d'élèves de se croiser dans les couloirs. Alors, ça peut passer par des profs qui changent de salle de cours et non plus les élèves, ou encore faire une partie des cours à distance pour réduire les effectifs dans les lycées qui peuvent accueillir jusqu'à 1500 élèves, avec sûrement des priorités accordées aux salles de cours aux élèves de terminale qui passent le bac. Il pourrait aussi y avoir davantage de services à la cantine ou au self, c'est ce qu'a laissé entendre aujourd'hui Jean-Michel Blanquer, qui doit préciser tout cela d'ici quelques minutes. Il faudra aussi trancher la question des cours de sport pendant lesquels les élèves ne portent pas non plus le masque. Enfin, l'hommage à Samuel Paty prévu lundi matin dès 10h dans les établissements scolaires est maintenu, mais il sera probablement ajusté au nouveau protocole sanitaire, c'est-à-dire pas de grand rassemblement d'élèves.
Merci Virginie Salmen.
Voilà, dans quelques minutes, prise de parole de Jean Castex. On va évidemment suivre tout cela en direct sur Europe 1. Vous restez avec nous. On devrait également connaître le détail des commerces considérés comme non essentiels et qui devront donc baisser le rideau.
Alors, a priori, pas ou très peu de dérogations, c'est-à-dire que pratiquement tous les magasins resteront fermés.
Oui, du coup, fort de l'expérience du premier confinement, les Français ont anticipé, Nicolas Feldman.
Oui, et de mémoire de commerçants ici, hein, jamais on n'avait vu une telle affluence à ce moment de l'année. Delphine, par exemple, elle sort les bras chargés de paquets. Pour elle et sa fille, c'est un peu Noël avant l'heure.
Alors là, j'ai acheté un calendrier de l'Avent, un petit peu de déco pour Noël, au cas où ça rouvrirait pas. Bon, on a peu d'espoir que ça rouvre, mais voilà, deux, trois petites choses. Et puis un peu de bricolage, c'était aujourd'hui ou jamais.
Alors pour Éléonore, pas de bricolage en vue. Elle est plutôt venue pour anticiper ses longues journées passées à la maison.
Et du coup, j'ai deux puzzles de 1000 pièces à faire. Ils sont que noirs et blancs et très compliqués à faire. Pour occuper ces soirées, pendant le premier confinement, j'ai plein d'amis qui en ont fait parce qu'ils en ont retrouvé dans leur placard chez leurs parents et tout. Et du coup, on s'est dit que ça pourrait être sympa en coloc de faire ça.
Alors une affluence aussi marquée dans les librairies à tel point qu'une queue se forme à l'entrée de l'Art de la Joie. Marie en ressort avec deux livres.
C'est soutenir d'abord les librairies indépendantes et ensuite c'est pouvoir s'évader en fait. Essayer de rendre cette période à venir un petit peu plus belle, quoi.
Et pour vous aussi, hein, si vous souhaitez acheter des livres, sachez qu'à Paris, cette librairie, comme beaucoup d'autres, ce soir, resteront ouvertes jusqu'à 21h.
Merci Nicolas Feldman. Et à quelques heures de ce reconfinement, record de bouchons ce soir sur les routes d'Île-de-France. C'est une situation exceptionnelle avec près de 700 km d'embouteillage. Sans doute êtes-vous nombreux à vouloir rejoindre vos maisons de campagne.
Oui, c'est possible. Les sportifs amateurs, eux, vont devoir ranger ce soir les crampons, les tutus ou les gants de boxe. Pour eux, c'est terminé, en tout cas momentanément. Salle de sport fermée, championnat amateur suspendu.
Les pros, eux, vont pouvoir continuer à huis clos. C'est le cas pour le foot, mais aussi pour le rugby.
Et puisqu'il faut bien trouver des raisons de rêver un peu dans le climat actuel, c'est vrai que ça fait du bien. Les fans du ballon ovale font un vœu, Isabelle.
Et oui, ils voudraient bien que les Bleus gagnent cette année le tournoi des Six Nations. Pour l'instant, ils sont trois à pouvoir encore l'emporter. La France, qui joue samedi contre l'Irlande, qui elle aussi peut encore espérer. Et puis l'Angleterre, qui joue samedi également en Italie. Alors, c'est pas gagné, mais on n'a jamais été aussi près depuis 10 ans. Et pour les Bleus, cette victoire, dans le contexte actuel, eh bien, ce serait un beau cadeau offert à leurs supporters et aux Français en général. Écoutez Raphaël Ibanez, le manager du 15 de France.
Pour nous, qui avons cette chance, qui avons ce privilège en fait, d'évoluer dans un contexte sportif de très haut niveau, c'est une mission supplémentaire qui nous est confiée, c'est-à-dire tout simplement essayer d'apporter un peu de lumière, quelques sourires pour quelques minutes, quelques instants devant la télévision, devant l'écran, pour tous ces gens, tous ces supporters et tous ces gens qui s'apprêtent à souffrir.
Raphaël Ibanez, le manager du 15 de France, au micro européen d'Axel May. France-Irlande, c'est samedi. On suivra ça de très près, évidemment. Notez que le Masters 1000 de tennis de Paris-Bercy est maintenu à huis clos, tout comme le départ du Vendée Globe, là encore sans spectateurs.
Ça va faire des belles audiences de télé, tout ça, parce que samedi, on n'aura pas grand-chose à faire. Et de radio, oui, bien sûr. Et de radio, mais c'est vrai qu'avec les images pour le rugby, c'est quand même mieux si on est chez soi. Mais de radio, bien sûr, vous avez raison, Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure à 18h30 et à 19h pour le Grand Journal. La météo avec Anissa, qui nous dit attention au brouillard demain matin, ça tombe bien parce qu'il ne devrait pas y avoir grand monde sur les routes.
Normalement, non, il n'y aura pas grand monde sur les routes demain matin.
À part ceux qui reviennent de vacances, c'est vrai que le président de la République a annoncé une tolérance tout le week-end.
Et ceux qui pourront aller travailler, il va falloir être très prudent du sud-ouest au centre-est. Là, les nuages bas et les brouillards seront nombreux. Donc sur l'Occitanie, les Landes, le nord de l'Auvergne, dans tous ces coins-là, il va falloir vraiment être vigilant. Demain, le soleil brille généreusement dans le sud-est, sur les Pyrénées, dans la vallée du Rhône, dès le lever du jour. Et puis au nord de la Loire, là c'est notre limonade au nord de la Loire. Parce que demain, ça va être très très gris.
Vous la sortez d'où celle-là, une autre limonade?
Je la sors de très loin. Dans l'après-midi, le soleil va gagner du terrain jusqu'à la Loire. Il va faire très beau sur la moitié sud de la France. Au nord de la Loire, de la Bretagne à l'Alsace, le ciel reste très gris et très couvert. Les températures, je vous le disais, elles sont bien au-dessus des normales de saison, 2 à 3 degrés. Nous avons actuellement des températures dignes d'une fin avril, avec 7 à 14 degrés demain matin et jusqu'à 25 dans le sud demain après-midi, 15 à Charleville-Mézières, 16 à Nancy, 17 à Lille, 18 à Saint-Étienne, Paris et Rouen, 20 à Rodez, 23 à Pau et 25 pour Nîmes.
Bien, allez boire une petite limo et puis on se retrouve à 18h30 pour un nouveau point météo.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h20, il est l'une des figures de la droite républicaine, chef de file des sénateurs Les Républicains, candidat déclaré dans la course à la présidentielle. Bonsoir Bruno Retailleau.
Bonsoir à vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation alors que la France traverse, c'est vrai, des heures sombres. D'abord, votre réaction tout simplement à cette terrible attaque terroriste qui a fait donc 3 morts à Nice.
C'est d'abord l'émotion, c'est le recueillement, évidemment pour les victimes, pour leurs familles, pour tous leurs proches, mais c'est aussi la révolte. C'est la colère. Et ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est que, bien sûr, il faut des hommages, mais il faut maintenant des actes. Parce que ce qui est en train de se passer, les Français le découvrent. C'est le djihad sur le territoire de France. C'est la Terre Sainte, la guerre sainte, pardon, en France. Et il faut prendre les armes qui nous permettront de lutter à la racine contre ce mouvement du totalitarisme islamiste.
Vous reprenez dans votre bouche les mots de Marion Maréchal, vous venez de dire le djihad, c'est ce qu'elle a tweeté aujourd'hui,
bien
le djihad est lancé contre la France.
Non, mais le djihad de tous les spécialistes, de tous les chercheurs, est connu, si vous voulez, comme une des armes du totalitarisme islamiste. Il y en a plusieurs. Il faut bien comprendre qu'en réalité, cet islamisme opère de façon violente, c'est le djihad, c'est le terrorisme. Mais il opère aussi de façon à conquérir des territoires. Des territoires de la République. Il y a eu un livre d'un chercheur qui a intitulé son livre « Les territoires conquis par l'islamisme
oui. ».
Et donc, il y a une forme violente qui nous terrorise, qui cherche à nous diviser, et il y a une forme rampante. Et je pense que le gouvernement, pour l'instant, n'est pas à la hauteur de cette guerre-là.
Alors, Bruno Retailleau, beaucoup de vos amis à droite estiment qu'il est temps de changer le cadre législatif. C'est un peu ce que vous dites aussi ce soir, j'ai l'impression, pour éradiquer les islamistes. C'est ce qu'a dit Éric Ciotti. Christian Estrosi, maire de Nice, très affecté, on l'a entendu tout à l'heure par les événements, estime que la France doit maintenant s'affranchir des lois de la paix. Alors d'abord, qu'est-ce que ça signifie? Et y êtes-vous favorable, vous?
J'y suis favorable, je l'ai déclaré. Je pense que, et je le redis ce soir à votre micro, je pense qu'on ne parviendra à éradiquer l'islamisme qu'à une double condition. Première condition, un combat global. Le combat global, c'est quoi? C'est contre le djihadisme, c'est contre la forme rampante, la reconquête des quartiers. Mais c'est aussi contre l'immigration, le désordre migratoire. On le voit bien, c'était encore un Tunisien qui venait, illégal d'ailleurs, qui venait de...
Tunisien, on n'en est pas encore sûr. On sait que c'est un migrant qui est arrivé par...
Clandestin, mais souvenez-vous, le tueur de Villeurbanne, c'était un Afghan, l'homme au hachoir, c'était un faux mineur pakistanais.
Ça n'était pas le cas de Kouachi,
non,
ça n'était
absolument.
Pas le tatou, c'est terroriste.
Non, mais attendez, faut être totalement... voulez me faire dire que le désordre migratoire n'a pas eu un lien avec l'islamisation et le terrorisme, c'est faux. Maintenant, les Français le savent. Donc, moi, je pense que quand je parle de combat global, c'est d'abord contre l'islamisme, contre le désordre migratoire, mais aussi, il faut une révolution pénale. Pourquoi? Parce que l'État est empêché d'agir.
Mais
vous savez, quand
ça...
on veut expulser...
Oui.
D'immigrants clandestins. C'est très, très difficile.
Oui.
Les mineurs, par exemple, qu'on appelait isolés, qu'on appelle non accompagnés.
Oui.
C'est très, très difficile.
Mais Bruno Retailleau, c'est un des aspects de la contre-attaque éventuellement, l'immigration, et je l'entends ce soir dans votre bouche, mais
pas
on sait qu'il y a aussi
seulement.
Une menace intérieure. Et c'est là-dessus que je voudrais vous entendre. Est-ce que l'arsenal législatif et sécuritaire est suffisant? Que pouvons-nous faire concrètement contre des individus qui sont prêts à tuer, qui sont prêts à mourir en prenant la première arme qui leur tombe sous la main et qui viennent de l'intérieur, qui sont français?
Oui, alors il y a une partie qui n'est pas français. Donc ceux-là, il faut les empêcher de rentrer dans les territoires. Et puis ceux qui sont déjà chez nous, qui sont dangereux, qui sont condamnés, on les expulse. Première chose. Les autres, s'ils sont étrangers, évidemment. Mais malheureusement, ça arrive. Ce que je fais comme proposition, c'est le rétablissement de l'état d'urgence. Vous savez qu'on a beaucoup de mal à fermer des mosquées, pour plus de 6 mois d'ailleurs, quand on est en dehors de l'état d'urgence. Je pense que ces événements de ces dernières semaines devraient nous inciter à rétablir l'état d'urgence pour qu'on puisse aller désislamiser un certain nombre de quartiers. Ça, c'est une proposition.
Mais j'ai appelé tout à l'heure le ministère de l'Intérieur. 12 lieux de radicalisation fermés en septembre, 73 lieux en 2020, 250 structures qui posent problème ont été fermées depuis 2018. On ne peut pas dire que rien n'est fait tout de même.
Mais il n'y a pas la volonté. Écoutez, la semaine dernière, au Sénat, il y avait un texte, justement, de lutte contre le terrorisme.
Oui.
Et nous proposions au Sénat, une mesure qu'on a votée, c'est-à-dire qu'on puisse former plus facilement les mosquées, mais surtout les lieux qui tournent autour de la mosquée, qui sont des lieux à caractère, par exemple, culturel, des lieux sociaux. Parce qu'on sait très bien que l'écosystème travaille et se développe à partir de tous ces lieux. On l'a voté au Sénat, Mais figurez-vous que le gouvernement, sa majorité, n'en a pas voulu. On voulait aussi confisquer les matériels informatiques. On ne nous a pas permis de le voter. Donc il faut une volonté. Je pense que M. Darmanin se balade sur les plateaux, mais en citant des chiffres d'ailleurs sur les expulsions, les 231 expulsions.
Le projet de loi contre le séparatisme, ça ne va pas assez loin pour vous ?
Je pense d'abord, je l'attends. Je ne peux pas vous dire. Très franchement,
je ne
peux pas vous
dire. C'est ce qu'il y a dedans. L'obligation de l'école pour tous dès 3 ans, l'expulsion des imams et la fermeture des mosquées quand ça pose problème.
Je pense que, par exemple, sur la scolarisation, c'est une fausse bonne piste. On a proposé, regardez, le Sénat, on a même voté une loi pour interdire le voile dans les sorties scolaires. Voilà. On l'a voté. Le gouvernement s'y est opposé. J'avais, moi, proposé l'interdiction...
Mais pardon, vous faites un lien entre le voile et les attentats qu'on vient de connaître ?
Non, mais je fais un lien sur l'islamisation de nos territoires, sur un certain nombre de signes qui sont des signes de conquête, qui sont des signes d'infériorisation du statut de la femme par rapport à l'homme.
Ça crée un contexte.
Ça crée un contexte. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'islamisation rampante. Donc, je crois que la laïcité, elle vaut, par exemple, dans l'école. Vous savez que dans l'école, il y a une loi, elle date de 2004, et on ne peut pas porter le voile à l'école. Bien, les sorties scolaires, c'est l'école hors les murs. Donc, la même loi, la même règle doit s'appliquer. Et le gouvernement l'a refusé. Avec mon ami Philippe Bas, il y a 8 jours, on a proposé d'inscrire dans la Constitution le terme de laïcité à l'article 2, parce qu'il n'y figurait pas. Le gouvernement s'y est opposé.
Ça sera l'intitulé du projet de loi séparatisme, visiblement.
Oui, mais si on ne modifie pas la Constitution, ce que je voudrais aussi, c'est modifier la Constitution pour rendre le référendum, parce qu'il y a des blocages. Je pense que l'État régalien est aujourd'hui ligoté. Il est empêché par ce qu'on appelle un État de droit, mais ou même international.
Mais donc vous pensez qu'il faut réduire l'État de droit pour lutter contre le terrorisme ?
Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas donner le dernier mot à des magistrats qui ne sont pas élus. Je pense qu'à un moment donné, sur l'immigration, par exemple, et sur d'autres sujets, il faut pouvoir faire en sorte qu'on demande par référendum au peuple, quelle est l'expression de la volonté générale. Alors, et je pense que le juge ultime dans une démocratie, c'est le peuple.
Bien. Bruno Retailleau, un tout dernier mot sur la crise sanitaire. Le Sénat a refusé son soutien au gouvernement, dénonçant un vote inutile. Pourquoi ce choix ? Est-ce que la situation n'est pas suffisamment exceptionnelle pour qu'il y ait une forme d'unité nationale, en tout cas parlementaire ?
Non, mais l'unité nationale, on va le prouver ce soir, puisqu'il y a l'état d'urgence et on va donner, comme on a toujours donné au gouvernement, tous les moyens de protéger les Français, c'est-à-dire de gouverner. Ce soir, c'est le texte sur l'état d'urgence. Là, on était sur une déclaration du Premier ministre. C'est un vote qui n'emporte aucune sorte de conséquence, c'est-à-dire que ça n'était qu'un vote indicatif.
Ça veut dire que vous êtes contre ce reconfinement ?
Non, pas du tout. Simplement, j'ai dit au Premier ministre, c'est parce qu'on a loupé, un, le confinement, 2, le déconfinement, 3, le couvre-feu, que désormais, les Français vont payer au prix fort par le reconfinement, par la privation de leur liberté, mais aussi par des faillites, par des licenciements. C'est les Français qui vont payer le prix fort des manquements d'anticipation du gouvernement. Donc, à partir du moment, si vous voulez, où le gouvernement nous demandait une sorte de vote de confiance, à partir du moment où le président de la République avait
vous
tout décidé...
Vous vouliez manifester votre opposition. Les écoles, lycées et collèges qui vont rester ouverts, c'est une bonne idée ?
Je pense que c'est important. Ce que je voudrais, en revanche, c'est que les gens n'aillent pas acheter des livres dans les grandes surfaces alors qu'on fermerait les librairies de proximité dans leur rue. Ça n'a aucun sens.
On va précipiter. Il y a des queues incroyables ce soir dans les librairies indépendantes. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont favorables ?
Oui, j'ai signé une tribune qui paraîtra prochainement. Ce que je veux, moi, c'est une équité. Eh bien, écoutez, je ne vois pas pourquoi on concentrerait les Français pour leur consommation, pas seulement pour l'alimentation, mais pour les achats de chaussures, pour les achats, par exemple, de livres dans les grandes surfaces, on va tout concentrer. Donc, on va faire circuler le virus. Et pourquoi on fermerait les commerces de proximité ? Il y a une sorte d'iniquité. Et je pense qu'on peut parfaitement, parce qu'il n'y a eu aucune sorte d'étude épidémiologique qui a montré que c'était des foyers de contamination. Ce n'est pas là qu'a lieu la contamination. En revanche, on leur demande d'appliquer strictement, par exemple, des horaires, strictement un certain nombre de conditions de distanciation. Ça, c'est possible.
Et on suivra si cet appel sera entendu par l'exécutif. Merci infiniment Bruno Retailleau d'avoir été ce soir notre invité.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bucher.
Le rappel des titres à 18h30 avec Isabelle Millet.
Et 3 morts, bilan de la terrible attaque au couteau ce matin à Nice, dans la basilique Notre-Dame, en plein centre-ville. L'auteur des faits a été interpellé, il est grièvement blessé. Il s'agirait d'un migrant de 21 ans, arrivé en France au début du mois, en provenance d'Italie. Il aurait répété à plusieurs reprises à la Akbar. Le plan Vigipérate est relevé à son niveau maximum. Urgence attentat, sécurité renforcée autour des lieux de culte et des écoles. 4000 militaires supplémentaires en renfort pour l'opération Sentinelle. Emmanuel Macron s'est rendu à Nice en début d'après-midi. Il appelle à ne pas céder à l'esprit de division. À 15h, le glas a sonné dans toutes les églises de France. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé demande à tous les hôpitaux d'activer leur plan blanc et de déprogrammer les opérations non urgentes. Alors que la situation épidémique se dégrade chaque jour un peu plus, on attend les précisions d'un instant à l'autre sur les modalités du nouveau confinement qui entrera en vigueur à minuit dans toute la France. Télétravail massif, 5 jours sur 5 quand c'est possible. Dès ce soir, les bars, restaurants, commerces non essentiels devront baisser le rideau. Quels sont ces commerces non essentiels? On en saura donc plus d'ici quelques minutes. Et puis les crèches, les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts avec masque obligatoire pour les enfants dès le primaire.
Merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure à 19h et vous restez avec nous car dans quelques instants, on vous donnera aussi toutes les annonces de Jean Castex concernant les contours du reconfinement qui rentre en vigueur. Donc vous le savez, cette nuit, un coup d'œil à la météo et au temps avec vous, Anissa, vous nous avez rejoint. Le soleil qui sera beaucoup plus présent demain.
Oui,
enfin, une bonne nouvelle, j'allais dire.
Ça va faire du bien, effectivement, sur toute la moitié sud du pays. Demain, la journée sera vraiment très agréable. Attention au nord de la Loire. Là, le ciel sera beaucoup plus gris, chargé avec encore un risque d'averse sur les frontières belges. Attention demain matin également sur le sud-ouest et l'Auvergne aux nombreux brouillards matinaux. Dans l'après-midi, le soleil gagne du terrain et s'impose sur toute la moitié sud du pays. Les températures, je vous le disais, au-dessus des normales de saison, dignes d'une fin avril, avec 13 à 25 degrés demain après-midi.
Bah vous voyez quand vous voulez, Anissa, on y arrive.
J'en annonce des bonnes nouvelles parfois.
À tout à l'heure, à 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, à la suite de notre édition spéciale, avec maintenant le débat des grandes voix. Et ce soir à mes côtés, Michel Cotta, bonsoir.
Bonsoir.
Guillaume Bié, qui était avec nous tout à l'heure, en charge du service police-justice d'Europe 1. Rebonsoir, Guillaume.
Bonsoir.
Et Louis de Ragnel, chef adjoint du service politique. La France, bonsoir. Donc, une nouvelle fois frappée par le terrorisme islamiste. C'est ainsi que l'a qualifié le président de la République tout à l'heure sur place à Nice. 3 morts en la basilique Notre-Dame et aux alentours. Et il s'agit là du 3e attentat en 5 semaines. Alors, quelle réaction face à cette nouvelle attaque? Réponse sécuritaire, réponse pénale. Peut-on en faire plus? Écoutez d'abord Jean Castex tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
Nos premières pensées vont à leurs familles, à leurs proches, aux paroissiens de Nice, mais aussi plus largement à toute la communauté catholique. Je veux leur dire ici, mesdames et messieurs, que la nation partage leur douleur et leur immense émotion. Cette attaque, aussi lâche que barbare, endeuille le pays tout entier. La réponse du gouvernement sera ferme, implacable et immédiate.
Voilà, d'abord peut-être un mot Guillaume sur cette nouvelle attaque qui est malheureusement ce que redoutaient les services de renseignement qui avaient relevé le niveau d'alerte.
Oui, c'est le scénario de ce matin, c'est typiquement le scénario que redoutaient effectivement les autorités parce que le contexte de menace terroriste, on le connaît, il est relativement élevé depuis des mois et des mois. Simplement, depuis que le procès des attentats de janvier 2015 a commencé et que les caricatures de Mahomet ont été republiées, il y a eu de nouveaux appels à mener des attaques et il y a eu de nouvelles attaques. Et le dernier appel en date, il date de dimanche seulement, par une agence, un canal de communication proche d'Al-Qaïda qui a appelé ouvertement à commettre ce type d'attaque exactement en France. Ça a été répercuté immédiatement par les autorités en interne, bien sûr, vigilance renforcée, mais néanmoins ce type d'attaque est très difficile à parer. Un individu isolé qui agit seul, c'est compliqué.
Et on n'a pas encore d'éléments, évidemment, parce qu'à chaque fois, c'est la question qu'on se pose sur le fait que cet individu ait agi seul, comme vous le disiez, ou au sein d'un réseau avec derrière des prédicateurs.
Alors, il est beaucoup trop tôt pour le savoir. L'attaque a eu lieu il y a moins de 10 heures. C'était juste avant 9 heures ce matin. Pour l'instant, on a des éléments sur un homme qui a agi seul de son propre chef et on n'a pas d'éléments sur un réseau potentiel.
Alors, on a vu que le président de la République est immédiatement allé sur place et a annoncé, c'est une annonce forte, un renfort du dispositif Sentinelle de 3000 soldats dans les rues qui protègent les lieux publics. On va passer à 7000 dans les prochaines heures afin de protéger, a-t-il dit, les lieux de culte notamment et les écoles. Il y a, Louis de Ragnel, un enjeu politique très fort pour le président de la République et l'exécutif, montrer qu'il est en capacité de protéger les citoyens.
Alors l'enjeu, effectivement, il est énorme parce qu'il y a un enchevêtrement aussi de plusieurs crises. C'est-à-dire qu'il y a la crise sanitaire, il y a la crise terroriste. Et avant la crise sanitaire, il y avait aussi, souvenez-vous, l'assassinat du professeur d'école Samuel Paty. Et donc tout le monde est encore quand même sous le choc de cet assassinat, toujours commis au nom de l'islamisme. Et du coup, Emmanuel Macron a, à répliquer en prononçant des fermetures administratives d'une mosquée, celle de Pantin, en dissolvant plusieurs associations. Et on voit bien quand même que l'opinion publique attend plus, puisqu'on se rend compte que pour l'instant, il y a eu effectivement quelques événements un peu marquants, mais on a l'impression que l'attente, elle est beaucoup plus profonde. Les gens commencent à se dire, et d'ailleurs ça se voit à l'Assemblée nationale comme au Sénat, dans toute la classe politique, mais en fait, tout ce qu'on vote, tout ce qu'on nous propose n'est absolument pas suffisant. Le mal est beaucoup plus profond et c'est un peu la prise de conscience aujourd'hui qu'on constate un peu partout.
Alors, on va parler des réponses judiciaires, sécuritaires. Michel Cotta, peut-être un mot tout de même du contexte et du climat. Emmanuel Macron a aussi insisté sur l'esprit d'unité. Il ne faut rien céder à l'esprit de division, a-t-il dit. Et en cela, il rejoint ce qu'a déclaré ce matin à ce micro François Hollande et un autre président, Nicolas Sarkozy.
En effet, on a bien entendu et Hollande et Sarkozy. Moyennant quoi, ils ne font pas partie du jeu, vraiment. Ils en sont extérieurs, ils sont anciens présidents, c'est tout à fait important, mais on a l'impression que c'est...
Mais ils se placent en retrait, les uns et les autres, des...
Oui, c'est plus facile.
Polémiques. Voilà, des polémiques qui sont en train de monter. On avait Bruno Retailleau à l'instant, qui réclame des mesures fortes. On va débattre des mesures, parce que l'arsenal judiciaire et sécuritaire, il existe aujourd'hui, il est fort déjà.
Effectivement, moi je crois que l'attente des Français... Et là, on entendait bien dans les réactions des Niçois, les réactions isolées des Niçois. L'attente, elle est quand même maintenant pas tellement de la réforme de la Constitution, je pense, mais d'une réforme pénale. Et d'une réforme pénale qui soit à la hauteur de ce que les gens attendent, c'est-à-dire qu'on puisse, oui, plus facilement expulser les gens, qu'on puisse faire attention aux frontières, qu'on puisse s'évader éventuellement des lois européennes, ça, les gens l'attendent.
Oui.
Alors, j'ai vu avec surprise l'article d'un ancien bâtonnier qui s'appelle M. Burguburu, disant attention à l'état de droit. Il a peut-être raison. Et bien sûr, il faut faire attention à l'état de droit. Mais alors, il faut changer le droit.
Bien, on parlera dans un instant des réponses à apporter face à cette nouvelle menace terroriste qui frappe notre pays. 18h39, vous restez avec nous, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, avec toujours le débat des grandes voix, édition spéciale ce soir, suite à cette nouvelle attaque qui a fait 3 morts en l'église Notre-Dame, la basilique Notre-Dame de Nice. On en parle évidemment ce soir, et notamment quelle réponse, au-delà des mesures d'urgence et des déclarations de compassion ou des coups de menton, que peut-on faire concrètement? Écoutez Marine Le Pen qui a son idée sur la question.
Le terrorisme, c'est l'arme de l'idéologie islamiste. Il faut à tout prix que nous prenions conscience que c'est une idéologie qui nous fait la guerre, et que tous ceux, associations, structures, hommes, femmes qui soutiennent cette idéologie, qui la diffusent, qui en font l'apologie, eh bien, il faut les mettre hors d'état de nuire. Voilà, légalement, grâce à l'état de droit, grâce à une législation spécifique qui serait votée ici, à l'Assemblée nationale.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une législation spécifique? Christian Estrosi, maire de Nice, lui a dit « il faut s'exonérer des lois de la paix ». On entend évidemment derrière l'idée d'une loi martiale. Mais est-ce qu'on peut renoncer à notre état de droit qui est le fondement de notre République? Sinon, c'est la victoire des extrémistes, Louis Dragnel.
En fait, on joue aussi un peu sur les mots. C'est-à-dire que, par exemple, la Christian Estrosi va beaucoup plus loin que Marine Le Pen. C'est-à-dire que lui, carrément, il dit qu'il faut s'affranchir de l'état de droit, là où Marine Le Pen dit qu'il faut appliquer strictement la loi et éventuellement l'adapter, en fait, aux nouvelles menaces. Ensuite, la vraie question, c'est qu'est-ce qui fonctionne de manière efficace? Et ce qui commence à émerger aussi dans le débat, et on l'a bien vu, Emmanuel Macron, par exemple, depuis le début de son quinquennat, n'est pas très à l'aise sur les questions d'immigration. Et là, évidemment, encore une fois, typiquement, on est dans un cas qui va devenir très politique. Oui. Et je pense qu'à partir de demain, le débat politique va dévier sur la question migratoire, puisqu'on se rend compte que c'était quelqu'un qui était à Lampedusa, qui était donc en situation irrégulière sur le territoire français, qui a franchi la frontière franco-italienne, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien. Et donc forcément, le débat va s'orienter là-dessus, puisque la droite et le Rassemblement national ont demandé depuis pas mal de temps, en fait, à ce que justement les contrôles aux frontières soient rétablis et que toutes ces personnes-là, en fait, soient expulsées. Et en réalité,
mais
de manière...
Il y a deux volets dans la réponse. Il y a la question migratoire et puis il y a la question, Guillaume Bié, de la menace intérieure. On sait que la menace intérieure, et tous les spécialistes de l'antiterrorisme le disent, elle est aussi très forte, cette menace endogène qui fait que des individus se radicalisent sur le sol français et qui ont la nationalité française. Et là-dessus, est-ce qu'on peut encore, j'allais dire, renforcer un peu plus l'arsenal qui est déjà très,
très fort.
La menace, elle existe, vous le dites très bien. L'arsenal contre le terrorisme, il n'a cessé d'être renforcé ces dernières années. Il est quasiment au plus haut. Le terrorisme islamiste, il n'a pas peur de la justice et des institutions. Ça ne va jamais le dissuader. Oui. Donc, on est au-delà de ça. Effectivement, la réponse judiciaire, elle existe. Il y a des condamnations lourdes qui sont prononcées. Il y a quelques jours, un homme qui avait attaqué des policiers à coups de marteau sur le parvis de Notre-Dame à Paris, il a été condamné à 28 ans de réclusion par la cour d'assises de Paris. Heureusement, le policier n'a pas succombé à ses blessures. Il a même très peu de séquelles. 28 ans de réclusion, c'est une condamnation lourde.
Il y a un élément quand même, Guillaume, qui monte dans le débat public aujourd'hui, c'est la rétention de sûreté pour les radicalisés les plus dangereux, c'est-à-dire les enfermer. Ça pose une question de droit évidemment fondamentale, mais pour les radicalisés qui seraient les plus dangereux, les enfermer avant un éventuel passage à l'acte.
Mais
on a déjà commencé à le faire, Julien. Julien, ça a déjà commencé, en fait. Souvenez-vous, après les attentats de 2015, il y a des lois qui étaient assez répressives, qui ont été adoptées, et dans lesquelles, en fait, on a incarcéré, on a mis en prison des personnes uniquement parce qu'elles avaient l'intention de se rendre, par exemple, en Syrie ou en Irak. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'il y a le début, en fait, d'une évolution du système pénal français, mais effectivement, il y a peut-être une attente aussi pour que ça aille encore plus loin, parce qu'en fait, là, on observe que les premières personnes qui ont été incarcérées en 2015, en fait, sortent assez vite, puisqu'elles n'ont pas commis d'actes.
Cette année, 60, mais, je crois, voilà. L'année prochaine.
Mais et du coup, la question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sortent? Et c'est réellement une vraie question, et pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse, puisqu'on est dans les limites de l'état
peine,
de droit.
Puisqu'il y a justement une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait des gens après, quand ils sont libérés, est-ce qu'on peut les surveiller de plus près, etc. Et vous avez bien vu la controverse que ça a fait avec une partie de la gauche qui appelait ça une double peine. Mais franchement, je ne pense pas que cette partie-là de la gauche soit majoritaire dans le pays.
Donc vous y êtes favorable.
En revanche, moi je voulais juste ajouter quelque chose sur beaucoup de choses dépendant aussi des musulmans de France. Et ça, il faut le dire. Par exemple, quand on entend, comme on l'a entendu au journal, la réaction de cette femme à Nice, disant « mais c'est pas nous », en pleurant « mais c'est pas nous, mais c'est pas nous ». Bon, il est évident que si les autorités de l'islam régulier ne se mobilisent pas, ça va être très difficile.
Ça, c'est une partie de la réponse, mais ça n'est pas la réponse sur la surveillance et le suivi des individus radicalisés.
Mais c'est une grande partie de la réponse, parce que ça empêche peut-être les individus radicalisés de se déclarer.
Peut-être un mot pour que chacun ait bien les chiffres en tête. Combien de personnes radicalisées aujourd'hui par les services de renseignement suivies régulièrement, j'allais dire?
Alors, il y a 8000 personnes actuellement qui sont inscrites au fichier des personnes radicalisées, qui font l'objet, selon leur dangerosité évaluée, d'un suivi plus ou moins régulier. Mais effectivement, dans la réponse, il y a d'un côté les personnes radicalisées que l'on connaît, qui sont déjà détectées, suivies, fichées, qui font l'objet d'un traitement, j'ai envie de dire, par les services de renseignement. Là, vous avez un assaillant dont pour le profil de ce qu'on sait de lui, il est arrivé il y a quelques jours ou quelques semaines à peine en France, personne ne le connaissait, il est passé à l'acte. Sur lui, les services de police n'avaient pas de prise immédiate.
Et à l'arrivée aux frontières, parce qu'il se déclare, il demande le droit d'asile vraisemblablement, tout ça demandera à être confirmé à Lampedusa. Est-ce qu'il y a un moyen d'analyser son état de radicalisation potentiel?
Il peut y avoir une évaluation qui est menée, mais là, c'est l'Europe qui doit se remettre en cause, puisque là, on est sur un passage entre la France et l'Italie. L'Italie dit vous ne restez pas sur notre sol, quittez le territoire, on le laisse en liberté. Il a pu aller dans n'importe quel autre pays d'Europe.
L'histoire de Lampedusa est quand même. L'histoire de Lampedusa est insupportable.
En fait, le débat va forcément se porter maintenant sur le rétablissement des contrôles aux frontières. Oui. Et en fait, typiquement, dans les Alpes-Maritimes, en 2015, François Hollande avait rétabli l'état d'urgence et il y avait eu le rétablissement des contrôles systématiques aux frontières. Et si ce système avait été maintenu, et je pense que la question sera évoquée, eh bien cette personne n'aura pas pu venir sur le territoire français.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h50, on est toujours ensemble dans le débat des grandes voies et on s'intéresse maintenant aux annonces qui sont en train d'être faites, je vais y arriver, pardon, par le Premier ministre Jean Castex et ses ministres. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, est en train de présenter à l'instant même les contours de ce confinement avec, vous le savez, les écoles, les collèges et les lycées qui resteront ouverts. Voici avec Adrien Beck qui suit tout cela pour nous en direct les dernières informations, Adrien.
Oui, et à noter ce soir, il sera interdit de sortir à plus d'un kilomètre de son domicile. Alors évidemment, vous pourrez aller prendre l'air, promener votre chien, courir, tout cela pendant une heure maximum. Ça, c'est pareil qu'en mars. En revanche, ce qui change, vous pourrez accéder, à condition évidemment de faire une attestation, accéder aux services publics, que ce soit la Poste, la CAF, Pôle emploi, les banques aussi resteront ouvertes, tout comme les commerces de gros et les jardineries. Autre point évidemment très important, c'est que les écoles, les établissements scolaires, collèges, écoles, lycées resteront ouverts. Jean-Michel Blanquer en détaille en ce moment même le protocole avec le masque obligatoire notamment dès 6 ans. Les activités extrascolaires en revanche, que ce soit les conservatoires ou les clubs de sport, devront fermer. À noter enfin, et c'est important, le confinement national ne sera pas appliqué à l'outre-mer à l'exception de la Martinique. On se souvient que lors du premier confinement, la Guyane par exemple n'était presque pas touchée avant de l'être au mois de juin, alors que les restrictions nationales étaient levées.
Encore deux précisions, Adrien. Est-ce que chacun et chaque Français qui sont en vacances et qui nous écoutent peut-être ce soir pourront rentrer tranquillement à leur domicile, quel qu'il soit ?
Alors effectivement, il y a une tolérance. Le Premier ministre vient de le dire. En revanche, il ne sera pas possible pendant ce confinement de rejoindre sa résidence secondaire.
Bien. Et des informations, dernier élément, sur les allées et venues pour aller travailler et ceux qui ne peuvent pas pratiquer le télétravail. Est-ce que le Premier ministre et les ministres concernés ont donné des indications sur ce point ?
Oui, alors il sera évidemment possible d'aller travailler à condition de faire une attestation. Il y a en fait trois types d'attestations. L'attestation que vous pouvez prendre pour aller chercher le pain, une attestation pour aller chercher vos enfants à l'école, et ça c'est une attestation qui sera valable pendant toute la durée de ce confinement, et une autre, effectivement, si vous devez aller travailler, là ce sera possible également, une attestation qui sera donc valable, renouvelée chaque jour où vous devrez aller travailler.
Bah dites donc, il va falloir se trimballer avec son attaché qui a trois attestations par jour pour aller chercher les enfants, pour aller se balader et pour aller éventuellement au travail. Merci Adrien, vous restez évidemment avec nous et vous revenez vers nous si vous avez des informations complémentaires. Les dispositifs sont en train d'être précisés, on y reviendra évidemment très largement dans le journal de 19h. Peut-être un mot là-dessus d'ailleurs, Louis. J'ai vu la publication tout à l'heure d'un communiqué de la CGT qui dit ceci: il est scandaleux d'affirmer que la situation est plus grave qu'au printemps, comme l'a dit le président de la République, et en même temps de prévoir une protection plus faible en décidant de maintenir une activité économique plus importante. C'est vrai que c'est un argument qui s'entend.
Non mais de fait, oui, il y a un paradoxe en fait si on regarde objectivement la situation. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le président a essayé de répondre en fait à la crise sanitaire. Et de l'autre côté, il a bien expliqué d'ailleurs que la crise économique était liée à la crise sanitaire. Et donc, il y a un enjeu énorme qui est un enjeu pas uniquement économique, d'ailleurs social, de tout faire pour surtout que l'économie française ne s'effondre pas. Oui. Et parce que pour lui, vraiment, c'est une vraie préoccupation. Et enfin, il y a une dernière chose, c'est aussi la question, et on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment l'acceptation sociale et oui, qui est liée aussi à l'activité économique, au fait que les gens vont travailler, savent pourquoi, ils donnent du sens un peu à leur journée.
Sur ce point, c'est intéressant parce qu'on sent monter une colère sourde de la part des milieux économiques, et on l'a entendu hier soir dans notre édition spéciale jusqu'à 21h avec les représentants d'un certain nombre de professions, les petits commerces notamment, et en même temps, on découvre ce sondage aujourd'hui qui nous dit que 77% des Français jugent nécessaire, selon un sondage Harris, réalisé après l'intervention du chef de l'État, jugent nécessaire ce reconfinement, Michel Cotard.
Ça ne m'étonne pas, parce qu'au fond, ce qui surprenait les gens, ce qui les énervait encore plus, c'était la différence de traitement des uns selon les autres, qui ne le comprenaient pas toujours. Puis les Français sont égalitaires. On leur dit, allez, on arrête tout. Ils comprennent ça mieux. Mais ce que justement ne veut pas faire le président de la République, c'est pour ça que ce confinement va être dans la dentelle. Hein.
Oui.
On va laisser sortir des gens pour travailler. Donc il faut des métros, des bus. Un confinement allégé, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire.
C'est un élément d'inquiétude, ça, Guillaume, qu'en même temps, les forces de sécurité aient à gérer le respect de ce confinement partout sur le territoire et la menace terroriste qu'on évoquait à l'instant.
Clairement, vu le contexte, la priorité des forces de sécurité, c'est de protéger les Français et c'est de lutter contre la menace terroriste. Évidemment que le respect du confinement va faire partie des mesures et des missions quotidiennes, mais ça ne sera pas la priorité des policiers et des gendarmes, clairement.
Bien. Un dernier mot, Louis de Ragnel, selon nos informations, selon vos informations d'ailleurs, l'exécutif ne le dit pas, mais envisagerait un confinement qui pourrait durer jusqu'à 12 semaines, c'est vrai ça ? On ne va pas casser le moral des Français qui nous écoutent ce soir, mais c'est vrai ?
Oui, c'est vrai.
12 semaines.
En fait, ce qui se passe, je vais vous expliquer un peu très rapidement comment Emmanuel Macron aussi a réfléchi. En fait, tout part en fait de la question de l'acceptation sociale. Et du coup, en fonction des courbes qui étaient présentées à Emmanuel Macron, autour de lui, il a demandé, en fait, il a cherché une sorte de point d'équilibre
pour pas complètement casser le moral des Français et leur dire en fait il y en a pour 3 mois. Et du coup, la solution qui a été retenue, c'est de dire en fait on va confiner pendant 4 semaines.
On connaît la musique,
et
on
a vécu ça au printemps.
Mais 12 semaines, c'est possible. 12 semaines, c'est possible. Reconductible. Et il y a beaucoup de scientifiques autour de lui qui lui ont dit effectivement que ça ne s'éteindra pas, ça ne diminuera pas avant 8 à 12 semaines. Effectivement.
Merci Louis. Joyeux Noël et bonne année, comme on dit. 18h56, on se retrouve dans quelques secondes. Vous restez avec nous, avec Le Grand Journal, suivi du Club des Idées. La menace terroriste en question ce soir, évidemment. On en parlera avec nos invités, suite de notre édition spéciale. À tout de suite.